Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïque à Strasbourg. Notre invité aujourd'hui est Chaï Cohen. Il est le rabbin de la communauté de Bishaïm. Il est également sous l'autorité rabbinique pour les cas de la vie juive. Monsieur le rabbin Chaï Cohen, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Demain ou après-demain, en tout cas dimanche 27 juillet, un événement important dans le calendrier juif. Événement important mais aussi très triste, ce sera le 17 Tammuz. Pour cette occasion, il y a un jeûne qui commencera à 2h48 et qui finira à 22h27. Il y a 5 événements qui se sont passés le 17 Tammuz. Est-ce qu'on peut les résumer ?
Oui, alors les 5 événements qui ont eu lieu le 17 Tammuz. Alors, il y a d'abord le premier, c'est Nishtaberu Alochot. Les tableaux de la loi ont été brisés lorsque Moshe est descendu du mont Sinaï. Il a vu le peuple d'Israël en train de servir le veau d'or. Eh bien, il a lâché les tables de la loi et se sont brisées. Donc là, c'est un fait très marquant puisque c'est les tables de la loi qui ont été écrites Alpi Hachem Biyad Moshe, donc sous la dictée de Hachem par Moshe. Et donc, un fait très grave qui mérite d'être marqué par un jeûne. Le second, c'est Boutal Atamid, le sacrifice quotidien, le Tamid. Donc, on offrait, comme aujourd'hui, on fait Shacharit et Mincha, on offrait à l'époque du Beth Amikdash, du Temple, un sacrifice le matin et un l'après-midi. Eh bien, alors c'était à l'époque du premier Temple, où le Jérusalem était assiégé par Nabucodonosor pendant 3 ans. Et donc, le stock de bétail a été épuisé. Il n'y avait plus d'agneaux à offrir au Beth Amikdash. Et donc, à partir de ce jour du 17 Tammuz, eh bien, on ne pouvait plus offrir ce Tamid qui est effectivement très important, puisqu'aujourd'hui, vous voyez bien qu'on perdure pratique par la tfila quotidienne, sachant que la régularité, l'assiduité de faire un acte tous les jours, eh bien, ça a une importance capitale dans le judaïsme.
Mais la gravité, ces 5 événements qu'on va continuer à énoncer, c'est aussi grave de ne pas faire un korban que de casser le tableau de la loi. Il n'y a pas une sorte de différence, je dirais, de gravité par rapport à ces 2 premiers actes.
Oui, alors il y a d'abord le korban, c'est... Si vous voulez, l'offrande qu'on donne à Hachem. Alors, même si on voit cet acte-là de façon ponctuelle, ça pourrait paraître anodin par rapport aux tables de la loi, mais c'est néanmoins, sachant que le korban, c'est karov, leit karev, l'Hachem, se rapprocher d'Hachem, par le biais de ce korban, eh bien, des fautes sont expiées, et c'est l'occasion aussi de se rapprocher d'Hachem, comme je viens de le dire. Donc, ça a une importance capitale, d'autant que le terme qui est employé par nos Chachamim, c'est le tamid. C'est pas le korban de façon générale, mais le tamid. Tamid, c'est le fait que ce soit régulier, ce soit tous les jours. Et lorsqu'on fait les mitzvot, on peut le faire une fois de temps en temps, on peut des fois avoir un élan, mais le fait d'être régulier, d'être assidu lorsqu'on pratique une mitzvah, eh bien, ça n'a pas de prix, c'est quelque chose de capital.
Troisième événement tragique.
Le troisième événement tragique, eh bien, Ufkea Ha'ir, c'est-à-dire que la ville de Jérusalem a été ébréchée, la muraille a été ébréchée, et là on parle essentiellement du... deuxième Beth Amikdash.
Hein. Mais ça veut dire la muraille extérieure, où on est rentré dans le Beth
Amikdash. Oui, alors c'était le début. Il y a eu d'abord le siège depuis le 10 Tevet, mais le 17 Tammuz, c'était la muraille qui a été ébréchée. C'est là où c'est un fait marquant, puisque c'est le début de l'invasion des Romains dans la ville de Jérusalem, qui va mener à ce que l'on sait, c'est la destruction du temple, des deux temples.
D'accord.
Alors, il fallait préciser aussi que le 17 Tammuz ouvre cette période de deuil qui va se terminer le 9 Av, sachant que le deuil va s'intensifier crescendo Hein, on a du 17 à Mouz jusqu'à Rosh Chodesh Av, ensuite de Rosh Chodesh jusqu'à Shavua Shechalbo, la semaine.
Ça, on va en parler ça sera
après.
Fois parce que
voilà, ça sera après, mais pour dire que ça débute le 17 à Mouz, c'est le 17 à Mouz, c'est là, symboliquement, la muraille a été bréchée, ça veut dire que la protection de Jérusalem, ça veut dire que Jérusalem est atteint dans son cœur.
Alors, on est à 3, le quatrième événement, on va tous les citer.
Oui, on va continuer. Alors, le quatrième, Saraf Apostemos est à Torah. Donc, Apostemos était un empereur grec qui a brûlé la Torah.
Ah.
Voilà. Alors, quand on dit il a brûlé la Torah, ça veut dire quoi? Alors, selon certains, explique que, en fait, c'était Ezra, Ezra Sofer, le grand maître qui a réuni les exilés d'Israël et qui a écrit un exemplaire d'un Sefer Torah, je dirais, entre guillemets, parfait, qui a servi ensuite de modèle, de référence pour corriger les Sefer Torah, parce qu'après le Galout, après l'exil de Babylonie, les Béné Israël étaient perdus.
On va expliquer qu'il y a beaucoup de Sefer Torah qui étaient plus ou moins complets. Et que
C'est ça. Voilà. Et donc, ça, on sait bien que dans la Torah, chez l'Odish Tané, Béchoum Zeman, Chas V'Shalom, hein, c'est un des 13 principes de Maïmonide, comme quoi la Torah ne change pas, ne serait-ce qu'une lettre. Et donc, Ezra avait un modèle de Sefer Torah qui était parfait, qui n'a pas subi de modification. Alors ça, c'est ce qu'il nous dit de la Torah. Et donc, Apostemos a brûlé cette Torah.
Ah.
Mais heureusement, on a quand même pu récupérer d'autres Sefer Torah qui étaient encore bien. Et d'autres disent, à Torah, la Torah, ça veut dire de façon générale, il a cherché à brûler le maximum de Torah, malheureusement. Donc, dans son ensemble, il voulait éliminer, réduire en cendres toute la Torah qui pouvait exister.
Et enfin, le dernier événement.
Donc, ça, c'est vraiment gravissime. Ouais. Et enfin, le dernier. Et Amit Selem Baïchal, il a donc érigé une statue dans le Echal, hein, au Beth Amikdash, au cœur du Beth Amikdash, au sein. Alors, certains le lisent comme Vehei Mid, il a lui érigé Apostemos, celui qui a brûlé la Torah. D'autres ont une autre version qui dit Ve'omad. Une idole a été érigée. Alors, en fait, parce que dans le Yerushalmi, dans le Talmud de Jérusalem, il y a une discussion de savoir si c'était Apostemos qui a brûlé la Torah, auquel cas on dit Vehei Mid. Donc c'est l'actif, c'est le « if il » dans la grammaire. Ou alors si c'est quelqu'un d'autre. Alors en l'occurrence, ce serait Ménaché. Ménaché qui a fait faire Avodah Zarah au Béné Israël. Hein. Et il serait écrit donc « Ve'u Omad » a été, une statue a été érigée, sous-entendu pas par Apostemos, mais par quelqu'un d'autre qui est Ménaché.
Alors c'est donc 5 événements tragiques. Est-ce que ce sont, selon vous... la période qu'on va vivre, c'est la période la plus noire du peuple juif. Est-ce que dans l'histoire ou dans la vie en général, il y a d'autres périodes aussi tristes dans le calendrier? On pense évidemment à la période des 10 jours de pénitence qui sont aussi très importantes, ou c'est vraiment le summum là?
Bon, alors déjà... Les 10 jours de pénitence, ce n'est pas une période noire. Hein, ce sont des jours de recueillement, hein, où on doit faire teshuva, se repentir. D'ailleurs, on va en parler là, le lien qu'il y a avec la teshuva. C'est sûr que dans le calendrier traditionnel, ce sont ces 3 semaines, les jours de deuil, comme on l'a précisé. Il y a aussi la période du Homer.
Ouais.
À partir, donc, selon les coutumes, selon les communautés, donc pour justement à cause du décès des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Évidemment, il y a d'autres périodes sombres dans l'histoire juive. Malheureusement, le Moyen-Âge, l'Inquisition, les pogroms, etc., les croisades, puis la Shoah. Mais alors, on ne peut pas non plus toutes les répertorier. Mais alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que le calendrier juif, justement, à fixer des dates, c'est, si vous voulez, la période des malheurs. Et donc, on dit bien que le Tisha B'Av, il y a eu aussi que le jour où ils ont été chassés d'Espagne, eh bien, c'était le Tisha B'Av. Mmh. Selon certains calculs, ce serait la déclaration de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, etc. Bon, il y a plusieurs choses qui ont été provoquées en cette période. Et donc, cette période, elle est faite, en fait, pour rassembler, si vous voulez, pour commémorer dans notre cœur tous les événements néfastes du peuple d'Israël durant toute son histoire.
Alors, quand on écoute différents rabbanim parlant de cette période, de ce jeûne du 17 Tammuz, qui au radio, on le rappelle, dimanche 27 juillet 2021, on dit souvent que c'est un jeûne un peu particulier parce que on demande une introspection, en tout cas une recherche un peu plus importante dans la spiritualité ou dans le fait de vivre sa vie. C'est important que les jeunes aient ce cadre-là.
Oui, parce que si on s'en tient aux jeunes, d'ailleurs, je m'en réfère à ce que disent les commentateurs, le Mishnah Berurah et d'autres, lorsque Hachem a parlé à Jonas, Yona, il lui a dit d'aller faire un appel à la ville de Ninive pour les faire revenir vers la Teshuvah. Et puis ils ont commencé à faire Teshuvah. Et il est écrit « Vayar Hashem et... » Qu'est-ce qu'il a ? Je lis le pasouk, hein,
allez-y.
Le verset, je lis ici. « Et tzakam betayn tamlonemar et la etma aseem » Hashem a vu, il a observé non pas leur jeûne, leur deuil, mais leurs actes. Et en fait, le but lorsque on nous dit, on demande de faire un jeûne, c'est justement le jeûne en soi. C'est pas la Torah n'est pas pour la mortification du corps, pour la souffrance, mais ce doit être un moyen. Le jeûne est un moyen pour réfléchir, parce que on doit être un peu détaché de les contingences matérielles, etc., pour pouvoir se recueillir et réfléchir. C'est un petit peu le même principe à Kippour ou
réfléchir à quoi ?
À notre situation. Pourquoi ? Pourquoi le temple a été détruit ? Pourquoi il y a eu des malheurs ? Pourquoi si nos ennemis nous font souffrir ? Donc, en l'occurrence, si on revient à ces cinq explications, pourquoi tel a brûlé la Torah, etc. C'est peut-être que on a peut-être pas eu assez d'attention vis-à-vis de la Torah. On ne l'a peut-être pas prise assez au sérieux. Et donc, on ne mérite pas de la garder. Et alors, c'est justement pas pour culpabiliser, mais pour nous dire peut-être qu'on a quelque chose à faire. Peut-être que rester donc spectateur devant les événements, devant tout ce qui nous arrive, c'est pas une solution.
22h27 pour la fin du jeûne, c'est long.
Bon, ça c'est dû au calendrier à l'été. Alors si un jour ils reprennent l'heure d'hiver, ça sera peut-être différent. Ça c'est bon, on n'a pas le choix.
Mais ça, c'était une boutade. Dans tous les jeûnes, dans toutes les fêtes d'ailleurs, il y a des halakhot, il y a des lois. Est-ce que pour le jeûne de cette Tammuz ou normalement, on a le droit de travailler, on a le droit d'avoir ses occupations. Est-ce qu'il y a quand même des mitzvot ou des interdictions qui sont liées à la journée du jeûne particulièrement, ou à la veille ?
Oui, alors le jeûne, donc, c'est comme on a dit...
La journée, en l'occurrence.
Oui, c'est la période de deuil qui commence. Hein, donc, à partir de ce jour-là, on arrête les festivités, la musique, etc. Néanmoins, il n'y a pas de restrictions comme à Tisha B'Av, par exemple. Donc, on a le droit de mettre des chaussures en cuir.
S'asseoir sur une chaise.
Voilà, s'asseoir. Même à la limite, se laver.
Ah bon ?
Oui, il y a des choses qui me disent qu'on pourrait même... Alors, c'est à éviter parce que c'est un peu risqué, mais on pourrait même se brosser les dents si on fait très attention de ne pas avaler.
C'est-à-dire que je pourrais me doucher dimanche ?
On a le droit. Certains disent qu'il vaut mieux éviter.
Oui, mais c'est si on peut, éviter, si on a
mais
envie.
D'après la halakha, strict, c'est permis.
D'accord. Alors, donc, il n'y a pas d'interdiction précise.
C'est le jeûne, hein, manger et boire.
Ouais.
En dehors de ça, il n'y a pas de restriction.
Alors, il y a certaines personnes que je connais et qui me disent « Ah ben moi, le jeûne 17 Tammuz, je ne le fais pas parce qu'on a récupéré Jérusalem, on a une capitale ». on a un pays. Bon, pas la peine de jeûner pour ça. Vous répondez quoi, ces gens-là ?
Bah déjà, si on s'en tient aux événements eux-mêmes, bah, ce n'est pas seulement la question de récupérer ou pas Jérusalem, c'est le Beth Amigdash, le temple. Mmh. Or, le temple, on ne l'a toujours pas. Je veux dire, même si
ça veut dire que si on récupère le temple, on ne fait plus de 17 Tammuz ni de 9.
Il est écrit que tous les jours de jeûne, et en particulier ces jours-là, ouais, qui sont des jours de malheur, se transformeront en jours de joie.
Ah.
Oui. Donc c'est la raison pour laquelle on a encore une obligation de jeûner. D'ailleurs, vous voyez bien, lorsque vous allez à Tisha B'Av au Kotel, vous voyez le monde qu'il y a et les keynotes, les lamentations qui sont lues par beaucoup de monde.
Mmh. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est quand on voit finalement les gens jeûner, il y a souvent une question qui se pose pour tous les jeunes. Est-ce que c'est mieux de jeûner et de ne pas faire les tfilot, ou alors le contraire, c'est-à-dire de ne pas jeûner et de faire les tfilot qu'on doit faire ces jours-là?
Vous voulez dire parce que si on jeûne...
Est-ce qu'on est...
Mais pourquoi parce qu'on est fatigué, c'est ça que vous voulez dire?
Par exemple.
Oui, bah
qu'est-ce qui est le mieux en fait?
En principe, lorsque.
C'est Dieu, mais vous me direz.
Les Chachamim ont instauré un jour de jeûne. Alors, c'est ce que disent les décisionnaires. Même si l'essentiel, c'est la Teshuvah, néanmoins, du fait que la loi a été instaurée de sorte qu'on doit jeûner. Donc finalement, on ne peut pas déroger ce jeûne.
On va être le 27 juillet, la météo, elle va être très chaude, les enfants seront le 27 juillet, oui, le 27 juin.
Juin.
25 juin, j'ai dit juillet, je l'ai vu, 25 juin. Pourtant, les enfants vont être à la maison, c'est un dimanche, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une coula pour ce jour-là ?
Non, alors, au niveau de, pour répondre à la première question, c'est le jeûne prime. Lorsqu'il y a un devoir de jeûner, le jeûne prime.
Ah, d'accord.
Maintenant, après, ça, c'est une autre, la question de la chaleur. S'il fait très chaud et qu'on risque de déshydrater, là, c'est une autre question. C'est
plus... Alors, là, dans la question-là, on aurait le droit de...
En fonction de l'âge, en fonction du risque, si on a une maladie ou une pathologie. Mais le principe est que ce jeûne... Alors, ça, c'est un principe très général. C'est que le jeûne, il est des rabbanans, c'est-à-dire que...
C'est les rabbins qui...
Il est imposé par les rabbins, bien qu'il soit mentionné dans les prophètes, mais considéré comme
des rabbanans.
Alors, c'est un principe général dans la Torah. Bimkom choli lo gazru rabbanan. Quand il y a une maladie, il y a un problème de santé, les chachabim n'ont pas imposé donc leur décret. Après, reste à définir qu'est-ce qu'on appelle choli, à quel niveau. Ah, c'est pas juste avoir un peu soif et ou alors bon, si on est fatigué, on se repose.
Ouais.
Alors si quelqu'un se sent pas bien ou il sent la chaleur est trop forte, alors selon la halakha, il peut donc casser le jeûne.
Alors moi, j'ai,
et pour les jeunes, attendez, et pour les personnes par exemple âgées qui savent d'avance qu'elles se déshydratent très vite, la halakha dit que ils n'ont pas besoin de jeûner.
Alors moi, j'ai demandé une fois à un grand rabbin, parce qu'il faisait très chaud là où j'étais, il m'a dit, écoute, fais le jeûne et quand tu arrives plus à supporter, eh ben mange.
Mm-hmm.
C'est un peu ça.
C'est un peu ça.
Ouais. Alors, on va dire un mot sur la suite des événements après le 17 Tammuz, quand on a mangé à 22h28. Il y a 3 semaines de deuil. Alors, il y a une chose qu'il faut dire, c'est important. Ça veut dire que les festivités sont interdites, mais si y a une bar mitzvah pendant cette période, je peux quand même faire monter mon fils au sefer Torah et mettre les tefillines.
Oui, alors il y a deux sortes de festivités. Il y a celles qui sont programmées par les personnes elles-mêmes, donc, par exemple un mariage.
Ouais.
Alors on ne va pas a priori le programmer durant ces 3 semaines, puisque, alors même si, il faut savoir que selon le Shulchan Aruch, donc pour les Sfaradim, ils pourraient célébrer un mariage jusqu'à Rosh Chodesh Av, mais bon, ils ont pris la coutume de ne pas le faire, parce que c'est une période qui n'est pas vraiment pas bonne pour les...
Mais une bar mitzvah, quelqu'un
voilà,
qui tombe...
En revanche, tout ce qui ne dépend pas des personnes,
c'est
la date d'une bar mitzvah, c'est une date qui est précise. Une Brit Mila, c'est une date qui est précise, ou un Pidyon Aben.
Ouais.
Donc là, bien sûr que c'est permis de le faire.
Sans musique, éventuellement.
Sans musique, oui.
Une question sur un thème important, parce que je me posais la question en préparant l'émission. Y a une question de vin et de viande. On n'a pas le droit d'en manger.
Non, ça, c'est à partir de Rochereau-des-Chaves.
Ah, d'accord.
Alors, je sais qu'il y a des... Il existe des gens qui ont la coutume de ne pas en consommer depuis les 3 semaines. Mais c'est une coutume qu'on retrouve, qui est peut-être ancienne ou dans certains pays.
En tout cas, Chabat, beaucoup utilisent des volailles au lieu de la viande.
Oui, mais à partir de cette période, c'est vraiment rare. C'est après, quoi. Ouais. Plus tard. Après Rochereau-des-Chaves, mais pas
Cet
Tamousin. Mmh. Oui, c'est rare.
Alors, il y a aussi une chose qui est très importante. Aujourd'hui, quand on parle en général de cette période importante, c'est cette année, c'est le fait d'avoir encore des restrictions, notamment pour le masque, pour les lieux de culte. Comment vous allez vous organiser à Bischheim ? Vous allez continuer avec le masque, même s'il fait très chaud, vous allez jeûner avec le masque ?
Disons que, alors à Bischheim, on a... Alors, si on doit encore porter le masque, on le portera. Maintenant, à Bischheim, l'avantage, c'est qu'on a quand même de la place. Et donc, au besoin, on pourra un petit peu, pour souffler quelques instants, on pourra l'enlever et le remettre, justement pour rester dans les règles, ne pas prendre de risques. On a de toute façon du gel hydroalcoolique. Donc je ne pense pas que ça posera de problème.
Il y a des choses qui sont totalement, mis à part les festivités, il y a des choses qui sont totalement interdites pendant les 3 semaines. On a des festivités, la musique, mais par exemple, se baigner, aller à la piscine, ou à la mer, ou voyager, tout simplement.
Oui. Selon la loi stricte, ce n'est pas interdit. Hein.
Ouais.
Jusqu'à le Rochereau-des-Chaves. Maintenant, c'est vrai que certains invitent aussi. Ils disent que c'est peut-être pas parce que c'est interdit, mais plus parce que comme c'est une période qui est néfaste, alors se baigner à la mer, on sait que la mer c'est quand même c'est toujours un peu risqué, les vagues, les bêtes, etc. Donc ce serait peut-être à éviter pour ne pas prendre de risques. Mais alarmiquement parlant, c'est pas interdit.
Dimanche matin, quand vous allez faire le jeûne, en général, vaut mieux manger ou pas manger, ou c'est personnel ? Qu'est-ce que disent nos rabbinim ?
Là, 2h40.
On fait l'Avdala déjà, samedi soir.
C'est samedi soir. Ouais. Donc samedi soir, après Shabbat, on fait l'Avdala.
Ouais.
Et puis...
Quelque chose de spécial dans l'Avdala, non ?
Non, rien du tout. Rien du tout de spécial. Et puis, soit on va dormir juste après Shabbat pour se lever à 1h30 ou à 2h, je ne sais pas. Bon, je ne pense pas que ce soit, ça vaille le coup. Et pour ceux qui dorment un peu plus tard, je pense qu'ils dormiront juste avant l'entrée du jeûne.
D'accord.
Voilà.
Alors, justement, dans la prière d'habitude, il y a évidemment la tefila comme d'habitude. Il y a des choses qu'on rajoute comme texte pour cette fête ce jour de 17 Tammuz, qui est, on le rappelle, le 27 juin.
Voilà, il y a ce qu'on appelle les tachanonim, des supplications.
En plus ?
Oui, qu'on ajoute donc après la prière de la Hamida, on les donc dans la tefila, donc qui commémore justement cette journée-là, où c'est des textes.
C'est la Torah ou pas ?
On demande justement, donc ça appelle aussi à la teshuva et aussi aux événements de cette journée. Alors, et on sort le Sefer Torah, oui.
Ouais.
On lit trois montées, on fait monter 3 personnes à la Torah, Vaïchal Moshe. Et c'est en fait le passage qui commémore lorsque Moshe est descendu du mont Sinaï, jour de Kippour, avec le pardon d'Hachem et avec les deuxièmes tables de la loi.
Il nous reste une minute. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs de la radio avant ce jeûne ? On leur dit Tzomkal, par exemple.
Oui, Tom calme, mais bon.
C'est un peu vieux.
Oui, c'est vrai que ça tombe après Shabbat. Alors, des fois, on a Seoul Hachlichit. C'est un jeûne, comment dire, on pourrait avoir tendance à être déconcentré, justement parce qu'il tombe au mois de juin.
Ouais.
Enfin, cette année, fin juin, ouais, il va faire tout certainement chaud.
Ouais.
Donc, essayer de rester. Concentré au jeûne, à ce que l'on vient de dire. Et aussi parce que c'est vrai que de nos jours, c'est pas facile. C'est pas facile de parler de la destruction du temple. Parce que finalement, c'est des choses qui... Voilà, ça fait 1953 ans que le second temple a été détruit. C'est quelque chose qu'on n'a pas connu. Donc on est obligé de... C'est pas un souvenir, c'est pas... on en parle, on lit des livres. Peut-être se documenter. Peut-être essayer de découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ou approfondir des connaissances sur qu'est-ce que le temple nous apporte de nos jours, en quoi le temple serait important... au point de jeûner, de pleurer la destruction du temple. Pourquoi c'est si grave, c'est si important pour nous ?
Je crois qu'il y a une histoire avec Napoléon, non ? Qui est dans les rues, il a vu des enfants pleurer, il leur a dit « Pourquoi est-ce que vous pleurez ?» L'enfant a répondu « On pleure la destruction du temple » et Napoléon dit « Quelle vos preuves si... »
Voilà, exactement. Hein, exactement.
Voilà.
Alors, encore si faut-il, donc, on le fait, donc on essaye de se... de s'habituer par des faits, par des prières, etc. Mais essayer aussi de l'intérioriser par l'étude et par la réflexion.
Voilà, très bonne phrase de Rabbin Chaï Cohen, le rabbin de la synagogue de Bussheim et également membre du tribunal rabbinique. On rappelle donc dimanche 27 juin, le début du jeûne 2h48, la fin à 22h27. Merci à vous, Tom Kahl.
Merci à vous.
Et merci à Lucas pour la réalisation technique. À tout à l'heure.
Shabbat shalom à tous.
Shabbat shalom.